à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
François de Berthier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être revenu débattre avec moi devant nos auditeurs pour ce second entretien où je rappelle un peu en deux mots votre parcours. Vous avez, pendant l'essentiel de votre vie professionnelle, été dirigeant d'entreprise, successivement de deux entreprises, dont une dans le transport et la logistique, et on verra que c'est cette partie-là qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Et parallèlement à ça, vers un peu la fin de votre parcours, vous avez créé, avec quelques collègues j'imagine, un cluster qui s'appelait Transten, qui ensuite a fusionné avec un autre cluster à Perpignan et qui est devenu Translog. Et vous êtes toujours, si j'ai bien compris, président de ce cluster Translog qui s'occupe de logistique, de transformation de logistique. Donc je vais vous laisser d'abord nous expliquer ce qu'est un cluster, parce que peut-être que tous nos auditeurs ne maîtrisent pas ce vocabulaire un peu nouveau dans l'organisation des entreprises, et nous parler de votre cluster Translog, de ce qu'il regroupe.
Alors le mot cluster vient de l'américain.
Comme beaucoup en management.
Exact. Et ça veut dire grappe au départ. Donc un cluster, c'est une grappe d'éléments. Et dans ces éléments, des entreprises en particulier qui se regroupent pour faire des choses ensemble. Autrefois, on aurait appelé ça un GIE, un groupement d'intérêts économiques. Voilà. Ça a un statut d'association. Association, loi de 1901. Donc, c'est tout à fait classique comme organisation. Mais il y a un objectif. Le cluster, le regroupement de ces entreprises, a pour but d'apporter un regard nouveau et en général qui soit au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée, ça veut dire que quelque part, ils travaillent pour l'intérêt collectif d'une branche, d'un secteur d'activité, d'une filière. Et dans notre cas, la filière que nous avons veillé à accompagner, c'est la filière de la logistique et du transport. Pourquoi ? D'où c'est parti ? Eh bien, en 2015, j'avais été faire un voyage d'études en Hollande et j'avais découvert qu'en Hollande, beaucoup de nos confrères travaillaient déjà avec des camions qui fonctionnaient au gaz naturel. Et l'avantage du gaz, c'est que ça pollue infiniment moins que le fuel, le gasoil. Et donc, je me suis dit, il faudrait qu'on s'y mette. Donc, retour à Toulouse, je me tourne vers nos fournisseurs. L'un s'appelait Total, peut-être que vous en avez entendu parler.
Une petite entreprise.
Voilà. On dit qu'elle est française. Une autre entreprise qui n'était pas française s'appelle Shell. Et c'était nos deux principaux fournisseurs de carburant. Et je leur dis, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir du gaz ? Ah non, ce n'est pas prévu en France pour le moment. Inutile de vouloir vous y lancer là-dedans. C'est pas le moment. Bon, très bien. Donc ça m'a énervé. Et comme tout chef d'entreprise habituel, quand un truc m'énerve, je veux le régler. Et donc j'ai trouvé deux autres collègues qui étaient un peu dans les mêmes idées que moi.
Un peu énervé aussi.
Voilà. Et on a dit, on va monter une station pour avoir du gaz nous-mêmes et pouvoir tenter cette diversification. Pourquoi ? Parce que le transport a toujours eu une mauvaise image de marque. C'est des camions qui encombrent les routes, qui puent, qui polluent. Et donc finalement, tout ce qu'on pourrait faire pour pouvoir améliorer cette image était positif.
C'était en quelle année ?
On a commencé en 2015 nos gesticulations et on a inauguré notre station en avril 2018. Et quand on a inauguré notre station, qu'on a pu implanter grâce à la mairie de Toulouse, et il faut bien dire que partout où on voulait se présenter en disant on va mettre une station à gaz ici, il y avait aussitôt une pétition qui était faite dans le quartier qui disait non, on veut pas de gaz, ça va péter. Non, surtout pas. Bon, là. Donc Jean-Michel Latte, qui était adjoint au maire à l'époque déjà, et qui s'occupait des problèmes de transport, qui a été notre interlocuteur, nous a permis d'obtenir une concession sur un terrain municipal situé en face du mine, dans la zone de Fondaire. Et on a fait un bail emphytéotique de 99 ans, ça nous laisse quelques perspectives, pour pouvoir exploiter une station à gaz. Mais on a vu que c'était tellement compliqué, qu'on a commencé en 2016 à peu près, les formalités pour arriver à la montée. Et donc, on s'est dit, chaque fois qu'on veut monter une station comme ça, on a autant de difficultés, on a besoin d'un organisme qui puisse nous permettre d'intervenir sur les collectivités, sur les différents acteurs de l'activité dans le secteur, et qui soit un peu neutre. Parce que sinon, on va toujours dire, bah, toi, tu trouves ton intérêt plus que moi, etc. Voilà. Donc, c'est là qu'on s'est dit, on va faire un cluster. Et ce cluster, on lui a donné deux objectifs. La mutation énergétique du monde du transport. Donc, comment on peut mettre en place des énergies nouvelles. Et la mutation digitale, parce qu'on était absolument convaincus aussi que, comme beaucoup de PME, on avait besoin de rentrer dans ce qu'on appelle des ERP, des programmes de gestion informatisés, pour prendre la terminologie française, qui puissent nous permettre d'améliorer nos relations, puisqu'en face de nous, on a des industriels, des chargeurs, qui développent ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Et bien, il fallait qu'on amène la logistique au 4.0 aussi. Donc, c'est la mission du cluster. Et depuis qu'il est fusionné en plus avec We4Log, qui était le cluster de Perpignan, il prend en charge une autre mission.
Qui avait le même...
Pas tout à fait. Il était concentré sur la logistique, mais il était dès le départ multimodal. C'est-à-dire qu'il s'intéressait aussi bien au rail, au port, au fluvial et à la route. Alors que nous, on n'était que sur la route, mais on était pour le transport de marchandises et le transport de voyageurs. Donc maintenant, on a tous ces objectifs qui sont regroupés. Et donc, le multimodal, il s'applique aussi aux voyageurs, d'ailleurs. On essaye de faire avancer les sujets là-dessus. Et donc, dans notre cluster, on a au départ des transporteurs, mais on a des organes de formation, les syndicats de transporteurs, les collectivités locales, des industriels. Et on essaye d'engager partout une démarche collaborative pour mettre en place des solutions adaptées à chaque site.
Alors, ces solutions, donc, au départ, c'est le gaz naturel, donc c'est quand même de l'énergie fossile.
Absolument.
Est-ce que vous avez évolué vers des énergies renouvelables ?
Absolument. Oui. Donc, c'était l'objectif, mais à l'époque, ce n'était pas possible. C'est ce qu'on appelle la méthanisation. Il faut savoir, c'est une phrase de Bertrand Piccard, le fondateur de Solar Impulse, que tout le monde connaît, qui disait toujours, en France, on gaspille 95% de nos déchets. Pourquoi on les gaspille ? Parce qu'on n'en fait rien. On les entoure, on les enterre, on les enfouit.
Ou on les brûle, oui.
Et où on les brûle, ce qui est pire que tout. Oui. L'idée, c'était qu'en créant des stations de méthanisation, on pouvait produire un gaz qui était un gaz naturel, mais renouvelable, donc dépollué. C'est-à-dire que quand on roule avec un biogaz fabriqué par méthanisation, on a 95% de pollution en moins par rapport au gaz naturel.
Donc vous êtes complètement précurseur sur toute cette sensibilité actuelle autour des énergies renouvelables. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de l'hydrogène ?
Alors l'hydrogène sera sûrement une solution, à condition qu'on règle les problèmes qu'on a à régler pour le moment, problèmes à la fois techniques et économiques. Techniquement, c'est quelque chose...
C'est difficile à stocker.
Alors il y a ce problème du stockage. Maintenant, on sait faire les réservoirs, alors qu'au début, on ne savait pas les faire. Mais on entend encore dire que sur un camion ou un car à hydrogène, il faut quand même changer à la fois le réservoir et la partie qui fabrique l'électricité, la pile à combustible, au bout de 3 ans d'âge. Et donc, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'un camion à hydrogène ou un car à hydrogène, ça coûte 5 fois le prix d'un camion diesel. Donc, économiquement, c'est difficile à pouvoir justifier, parce que les clients ne veulent pas payer 5 fois plus cher, bien évidemment. Et l'hydrogène en lui-même, pour 70% de son prix, ça vient du coût de l'électricité. comme l'électricité a pris une claque aujourd'hui, eh ben, le prix du kilo d'hydrogène aujourd'hui est un peu hors de portée pour pouvoir être comparé au prix
donc,
du
gazole. Donc dans votre cluster, au fond, vous n'avez pas de collègues, parce qu'on parle de l'hydrogène pour les trains, pour certains, pour des gros bateaux.
Mais même pour les camions, même pour les camions et les cars. Il y a des cars. Hein. On a dans la région, d'ailleurs, une entreprise qui s'appelle Safra, qui est à Albi, qui est capable de faire ce qu'on appelle du rétrofit.
Ouais.
Hein, c'est-à-dire qu'il transforme un car qui a une consommation de gasoil, il va le mettre en, pour qu'il consomme de l'hydrogène. Mais ça coûte cher. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous ceux qui s'équipent le font parce qu'ils sont subventionnés par les collectivités locales. Donc c'est bien pour démarrer.
La région Occitanie, je crois, est un peu à la pointe, non ?
Absolument.
Dans ce domaine, je pense qu'il y a des aides régionales.
Oui, alors ils ont lancé une opération Corridor H2. On est partenaire, nous, on est financé d'ailleurs par la région Occitanie. Hein. Donc on soutient ce plan Corridor H2 qui va permettre de commencer à faire rouler des véhicules à hydrogène à partir de 2025. On est engagé dedans et ça, on va faire. Il faut développer la chose. Ménégo, le président de Michelin, disait toujours la pile à combustible revient à 40 000 euros aujourd'hui. Mon objectif, c'est de la faire tomber à 4 000 euros. Il y a du chemin.
Il y a encore du chemin. Merci beaucoup, François de Berthier, pour toute cette expertise et ces précisions concernant le cluster que vous présidez sur la transition énergétique en matière de transport et logistique. Merci.
Avec plaisir.